communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramita, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramita, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres paramita, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. On va méditer quelques minutes. Simplement, dans cette méditation, placez le corps en méditation, mais sans aucune tension. Mais pensez quand même à rectifier votre position du dos. Faites en sorte que, même si vous êtes assis sur une chaise, vous puissiez légèrement basculer le bassin et avec la tête, vous pensez que vous poussez le plafond de façon à tendre la colonne vertébrale. Ce point-là, c'est le point le plus important dans la posture. Ensuite, ne cherchez pas à créer un état spécial dans votre esprit parce qu'on commence un temps de méditation. Et surtout, ne cherchez pas à créer un état méditatif que vous avez pu lire dans tel ou tel ouvrage d'instruction. Mais soyez conscient de comment est votre esprit ce soir, à cet instant. Il peut être fatigué, il peut être vif, il peut être clair, il peut être somnolent, il peut être joyeux, mais il peut être triste aussi. Simplement prenez conscience de ça. Observez également, quand je dis observer, ça veut dire prenez conscience que l'état dans lequel se trouve votre esprit, il y a plusieurs raisons, plusieurs causes qui font que votre esprit se trouve dans cet état. N'analysez pas les causes, mais faites le lien entre l'état dans lequel se trouve votre esprit et des causes qui vous semblent évidentes. Si je vous demande de faire le lien entre l'état dans lequel se trouve votre esprit et les causes qui provoquent cet état, même pour les causes qui ne vous paraissent pas évidentes, mais c'est pour comprendre que ce qui apparaît dans ce qui se manifeste dans notre esprit, ça ne se manifeste pas par soi-même, c'est dépendant de multiples causes et conditions, et que ça ne peut pas s'installer dans l'esprit comme ça. tout en observant sans aucune tension. Ne vous laissez pas aller à la somnolence, à la torpeur, ni à l'agitation ou la distraction. Maintenez dans votre esprit une attention sans tension, sans crispation. Et je prends souvent cet exemple, mais c'est l'attention que l'on établit dans notre esprit et que l'on garde dans notre esprit quand on conduit une voiture, par exemple. Pas plus que ça. On ne va pas méditer plus longtemps parce que j'aimerais partager plein de choses avec vous. Mais bonsoir aux deux personnes qui viennent d'arriver. Si vous avez un coussin, venez plus devant. Hein, parce que... C'est la première fois que vous venez ?
Non.
D'accord. D'accord, très bien. Venez, venez.
C'est les bons élèves devant.
Il va tenir ça. Non, c'est pas les femmes d'un côté et les hommes de l'autre. Non. Très bien. En tout cas, bienvenue.
Merci.
On se connaît, je sais pas, on s'est déjà vu dans une chimie. Je me souviens.
Non, c'est la première fois que je vous vois.
Et ben voilà. Très bien. Je remplace donc la Masultri, mais je remplace Orienne ce soir. Il n'a pas du tout d'extinction de voix, mais c'était prévu que je vienne dans tous les Tchulings avec lui en septembre. Et comme en septembre j'étais à Berlin quand il y avait le Tchuling de Belfort, là je n'ai pas pu venir. Mais sinon je suis venu à Belfort, d'abord à Montbéliard et ensuite à Belfort, mais pendant des années, quoi. Je ne sais plus combien de temps, mais. Bref. Ouais, ce que je voudrais voir avec vous, c'est... Donc, le mois dernier, j'étais à Belfort. Je suis allé voir Ringo Rinpoche, pas à Belfort, à Berlin. Et je suis allé voir Ringo Rinpoche parce que Rinpoche avait des... Il a un visa de résident pour l'Allemagne. Mais avec la situation sanitaire, il n'est pas venu en Allemagne pendant près de 2 ans. Or, vous savez que... Pour garder ce statut de résident, vous devez passer, je ne sais pas combien de jours, mais un minimum de jours chaque année dans le pays où vous êtes résident. Donc ça a été très compliqué pour lui pour revenir en Allemagne, et il a quand même pu, il a d'abord obtenu un visa pour 2 ans, et puis
Là, je crois qu'il est en train de négocier à Berlin pour avoir un nouveau visa pour 5 ans. Parce que le visa de résidence est pour 5 ans. Donc, pour l'anecdote, il est en train d'apprendre l'allemand, des rudiments d'allemand, parce que, voilà, il estime que c'est un effort qu'il peut faire aussi pour justifier sa demande de visa de résident, quoi. Voilà. Et quand j'étais à Berlin, les deux soirées où j'étais auprès de lui, il a donné un enseignement, et cet enseignement portait, les deux soirs, ça portait sur tout ce qui s'élève dans l'esprit, c'est la nature de l'esprit. Si notre esprit est triste, la tristesse est dans notre esprit. Elle n'est pas ailleurs. Donc elle est de la nature de l'esprit. Si on est irrité, cette irritation est de la nature de l'esprit. Et il disait tous les phénomènes, et il insistait beaucoup sur le fait que tous les phénomènes qui se manifestent dans notre esprit, eh bien, sont de la nature de l'esprit. Alors, c'est plus un enseignement sur la tong, sur la vue pénétrante, que sur le calme mental chiné. Mais il faut qu'on s'habitue à voir les choses comme ça. Et il disait, en Occident, c'est compliqué, c'est difficile, chez soi, tous les jours, de s'asseoir une demi-heure, voire une heure sur son coussin. Donc il faut qu'on s'entraîne vraiment à méditer, mais dans notre quotidien, dans notre activité quotidienne. Moi, je rajoute pas uniquement. Hein. Quand vous pouvez passer 20 minutes sur votre coussin, ne vous dites pas « oui, bah, j'ai médité en action aujourd'hui, en activité aujourd'hui, et puis maintenant, je glandouille sur mon canapé pendant les 20 minutes. » Mais, bon, on peut méditer, c'est-à-dire s'entraîner. Méditer veut dire s'entraîner, hein, se familiariser. On peut méditer, on peut s'entraîner à être conscient de ce qui se passe dans notre esprit. D'abord, à être conscient de dans quel état se trouve mon esprit. Et sans porter de jugement, mais simplement faire un constat que mon esprit est comme ça. Ce soir, il est comme ça. Il est dans cet état. Et il n'y a pas à porter une appréciation positive ou négative par rapport à cet état. Il a ses raisons d'être comme ça, on va dire. C'est pour ça que je vous demandais pendant la méditation de faire le lien avec des causes qui peuvent nous sembler évidentes. Si l'on est triste, souvent, on sait pourquoi on est triste, quoi. Et si ces causes n'étaient pas présentes, cette tristesse ne serait pas présente non plus. D'accord ? C'est-à-dire que la tristesse ne peut pas s'installer dans notre esprit comme ça, quoi. Elle vient de quelque part. Elle est produite par de multiples causes et conditions. Pareil pour si on a une tendance à être prompt à la colère, ok, il y a déjà la tendance qui fait que on va réagir, avoir cette tendance à réagir rapidement, de façon irritée ou en colère face à telle ou telle situation. Quelqu'un qui n'a pas cette tendance, eh bien, sera beaucoup moins en colère. En tout cas, pas aussi rapidement, peut-être. Tout ça pour dire que les phénomènes qui s'élèvent dans notre esprit, qui apparaissent dans notre esprit, ils ont, on va dire, une légitimité d'apparaître. Il y a des causes qui leur permettent de se manifester. Et ça, c'est un point déjà qu'il faut repérer, qu'il faut valider, mais valider par notre observation, qu'il faut valider par notre expérience. Et quand on voit, dans les situations les plus grossières bien sûr, mais quand on voit les causes qui produisent tel klesha, tel facteur perturbateur, tel état intérieur dans notre esprit, on se dit, bon, c'est peut-être pas confortable, mais au moins, ce phénomène-là, il n'apparaît pas par lui-même. Pour se manifester, il dépend de causes et conditions. Lesquelles causes et conditions dépendent qui sont en elles-mêmes des phénomènes, eh bien ces phénomènes dépendent aussi d'autres causes et conditions. Et là, on aborde la vacuité. Parce que bien souvent, on pense que vacuité, ça veut dire il n'y a rien. Mais le synonyme de vacuité, c'est interdépendance. Et ça, il faut vraiment garder ça. C'est le synonyme de vacuité, ce n'est pas le néant, ce n'est pas rien, ce n'est pas vide de tout, mais c'est vide d'existence propre, vide d'existence intrinsèque. Rien ne peut se manifester en soi-même, par soi-même. Tout se manifeste à partir de l'interdépendance, de la loi d'interdépendance, c'est-à-dire en dépendance de multiples causes et conditions. Alors, ça paraît assez simple à comprendre comme ça. C'est déjà plus compliqué de repérer que tout phénomène se manifeste à partir de multiples causes. Mais si on s'entraîne à cela, ça permet de désolidifier un petit peu la solidification que notre esprit attribue au phénomène et attribue à soi-même. Parce que notre esprit, eh bien, n'est pas permanent non plus. Il est impermanent. Et ça, Mojo Rinpoche, le week-end dernier, il a bien insisté. Et quand il insistait, c'est marrant, j'ai senti un petit remous chez certaines personnes dans le temple. Parce qu'on veut bien que tout soit impermanent, tout se manifeste, tout apparaît à partir de causes et conditions. Mais enfin, moi, quand même. Moi, quoi. Parce que j'ai l'impression, j'ai le sentiment très fort que moi, ça désigne une espèce d'entité. Je ne sais pas trop à quoi elle ressemble, je ne sais pas où elle se trouve, mais enfin, je ressens quand même dans mon esprit que quand je dis moi, eh bien, ça désigne une entité que j'ai tendance à considérer comme unique, autonome et permanente, alors que le moi n'a pas cette existence-là. Ça ne désigne pas, ça ne peut pas désigner une entité unique, autonome et permanente, ça désigne tout un ensemble de choses. Donc, ça déconstruit un petit peu, si vous voulez, cette impression très forte que nous avons d'exister en termes d'entité unique, autonome et permanente, bien solide. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'actong, c'est ce qu'on appelle la vue pénétrante, ça, c'est les premiers enseignements qu'on voit dans l'actong. Mais quand Rinpoche expliquait ça, il disait il faut habituer notre esprit à voir que ce qui se passe dans notre esprit, ça ne peut pas s'installer comme ça. Alors pourquoi est-ce qu'on... Et là, je m'adresse plus pour les anciens pratiquants du Dharma. Mais pourquoi est-ce que quand on pratique depuis peut-être 10 ans, on n'arrive pas à dépasser la compréhension intellectuelle de la vacuité, l'interdépendance, à une pratique vraiment? Cette solidification du moi est toujours aussi puissante, même après 10 ans de pratique ou d'études du Dharma. Et il me semble qu'une des explications à cela, c'est peut-être pas la seule, hein, mais une des explications à cela, c'est que quand on commence à travailler sur le non-soi de l'individu et le non-soi des phénomènes, on oublie de pratiquer ou de continuer de pratiquer les fondamentaux du Dharma. Si on a une petite compréhension de ce qu'on appelle la vacuité, alors on se dit, ah ben ça y est, ça commence à être vraiment intéressant. Mais les fondamentaux du Dharma, alors, c'est peut-être pas conscient, mais on se dit, mais ça c'est pour les débutants. Il n'y a pas de pratique pour les débutants et de pratique pour les pratiquants avancés. Ça, je n'y crois absolument pas. C'est-à-dire que jusqu'à l'éveil, il va falloir appliquer peut-être des instructions plus avancées, mais tout en pratiquant et continuant d'appliquer et de pratiquer les instructions qu'on appelle fondamentales. Et vous savez, on parle de la voie de la jonction et d'autres voies, mais la première des voies, c'est la voie de l'accumulation. Et beaucoup de personnes, quand elles pratiquent le dharma depuis quelques années, elles sentent une certaine transformation dans leur esprit au début, mais après, il n'y a plus de transformation. Alors ça, c'est vraiment le critère que tout pratiquant doit observer en lui-même, quoi. Qu'est-ce qui se modifie dans mon esprit? Qu'est-ce qui change? Et si vous ne trouvez rien qui change depuis un an, qui a changé depuis un an, si vous êtes toujours aussi prompt à la colère, prompt à l'irritabilité, prompt à la jalousie, prompt à la calomnie, etc., etc., alors là, il faut se poser des questions sur notre façon de pratiquer. Parce qu'à quoi sert la pratique? La pratique, ce n'est pas simplement une pratique de bien-être. La pratique du dharma, ce n'est pas l'équivalent d'une... Ce n'est pas une méthode pour un développement personnel de bien-être. Si le dharma se résume à ça dans quelques années, là, on aura tout faux. Il n'y aura plus de dimension vraiment spirituelle. Je veux dire par là que le dharma, l'objectif du dharma, ce n'est pas de se trouver mieux dans notre état d'esprit samsarique. C'est de se libérer de cet état d'esprit samsarique. C'est pas pour aller mieux dans notre confusion, quoi. C'est pour se libérer de la confusion. Ça, c'est l'objectif du dharma. Et il n'y a rien à faire, on ne peut pas se libérer sans renoncer à quelque chose. Et quand je dis renoncer à quelque chose, ce n'est pas renoncer une fois pour toutes à quelque chose. Mais il y a de multiples renoncements à faire. C'est-à-dire, en d'autres termes, la pratique du dharma, ça doit opérer un déformatage de notre esprit, du mode de fonctionnement de notre esprit. Et Rinpoche Rinpoche, la première fois que je l'ai entendu dire que pour lui, le renoncement, c'est synonyme de libération, vous tortillez ça comme vous voulez, vous réfléchissez à ça en rentrant, mais plus on va réfléchir à ça, plus on se rend compte qu'on va se rendre compte, effectivement, si je ne renonce pas à quelque chose, eh bien, il n'y aura pas de transformation dans mon esprit. Et il n'y aura pas de libération possible. Alors, le mot renoncement, peut-être que ça ne fait pas très recette pour le moment en Occident, mais je voudrais juste vous signaler qu'en 35 ans, parce qu'en gros, il y a 35 ans que j'ai rencontré le dharma, en 35 ans, le terme qu'on traduit aujourd'hui par renoncement, le sens profond du terme, c'est dégoût. Dégoût. Et dans les enseignements, on disait il faut avoir le dégoût du samsara. Très vite, du dégoût, nous sommes passés à la lassitude du samsara. C'est déjà plus soft. Après la lassitude, on est passé au renoncement. Et maintenant, enfin maintenant, déjà depuis un certain temps, du renoncement, nous sommes passés au non-attachement. Mais le terme tibétain shenlo, ça a vraiment le sens de dégoût, non pas d'aversion, mais aucun intérêt, quoi. Aucun intérêt pour ça. Et Jampa, qui est venu enseigner une semaine cet été, il disait que, oui, en tibétain, ce terme-là a le sens de, non pas d'aversion, mais de non-intérêt, de dégoût, dans le sens de non-intérêt, de la même façon que ce que vous avez rejeté aux toilettes quand vous tirez la chasse d'eau, vous n'êtes absolument pas intéressé par ce que vous avez laissé dans les toilettes. Eh bien, le terme tibétain, ça a ce sens-là. Donc, vous voyez, c'est un terme quand même, un sens plus puissant que non-attachement. Et si l'on n'y prend pas garde, il y a le risque que dans les prochaines décennies, le dharma s'affadisse complètement et qu'on en vienne peut-être à ce que le yoga est devenu dans la plupart des cours de yoga en Occident. C'est-à-dire il n'y a plus vraiment de dimension spirituelle. Le yoga en Inde, c'est une voie spirituelle de libération. Je ne sais pas si beaucoup de personnes qui pratiquent le yoga viennent dans un groupe de yoga pour chercher la libération. Mais par contre, ça apporte beaucoup de confort, d'assouplissement, etc. Oui, ça d'accord. Donc ça, c'est une pratique de bien-être. Et je discutais de ça avec Rinpoche. Quand le yoga s'est installé en Occident, il y a eu peu de maîtres indiens qui sont venus. Certains occidentaux partaient en Inde, d'accord. Mais on a perdu, dans le yoga, en tout cas tel qu'il est pratiqué la plupart du temps en Occident, a perdu vraiment sa dimension spirituelle et qui va jusqu'à, en Inde, la libération. C'est tout le problème de le précédent Kalou Rinpoche, par exemple, disait, vous aurez 50 ans de dharma authentique en Occident. Après, ça sera à vous d'en faire, de le maintenir authentique ou de l'affadir. Et il a dit ça au début des années 70, quand le dharma s'est vraiment installé en Occident. Faites le calcul, on est en plein dedans. Il y a les termes comme ça, il y a des mots qu'on utilise qui ne traduisent absolument pas ce que le dharma traduit. Prendre refuge. Qu'est-ce que ça veut dire prendre refuge ? Refuge, oui, c'est vraiment le terme tibétain. Mais prendre refuge, quand vous êtes en montagne, que la nuit tombe, que le froid arrive, mais qu'est-ce que vous cherchez ? Vous cherchez un refuge ? Vous avez intérêt à trouver un refuge. Parce que sinon, c'est la mort. Mais prendre refuge, on a traduit de l'anglais, et je ne sais pas pourquoi l'anglais a traduit to take refuge, mais nous, on a traduit de l'anglais. Et ça n'a aucun sens. Parce que en tibétain, quand vous prenez l'expression kyab sutsiwa, kyab, c'est vraiment le refuge. Et ça a le sens de refuge ultime, c'est vraiment c'est une protection quoi. Sous c'est une particule de localisation. Ça montre que pour trouver ce refuge, il faut faire une démarche. Chi c'est encore un verbe qui a cette notion de d'aller vers. C'est pour ça qu'il y a un centre qui a traduit prendre refuge par entrer en refuge, mais je trouve que c'est pas très heureux en français parce qu'on entre dans les ordres. Voilà. Mais par contre, il y a un traducteur qui a fait un dictionnaire tibétain-français, donc qui connaît vraiment bien le tibétain. Lui, il trouve qu'en français, la meilleure expression, c'est trouver un refuge. Trouver un refuge. C'est pour ça que vous avez peut-être entendu tout à l'heure. On a dit, en le Bouddha, le Dharma et la Sangha, et la sublime communauté, je trouve refuge jusqu'à l'éveil. Même quand on dit je trouve refuge, en tout cas pour moi, je le perçois comme je renouvelle le refuge. Mais je ne prends pas, quoi. Mais je le trouve, c'est-à-dire qu'il y a une démarche. Et ça rejoint ce que je dis souvent, on a la chance en Occident de ne pas être né dans une famille bouddhiste, de ne pas être né dans une culture bouddhiste, dans une société bouddhiste, etc. Si vous êtes là ce soir, il n'y a personne qui vous a obligé de venir ici ce soir, quoi. C'est que vous y trouvez un intérêt, voire plus pour certains. Bonsoir Myriam.
Bonsoir.
Bonsoir. Mais en tout cas, on fait tous une démarche pour venir chercher des instructions ou pour pratiquer. Personne ne le fait en Occident par obligation, vous êtes bien d'accord. Donc il y a une démarche de notre part. Et ça correspond davantage au terme, au sens de ce qu'on traduit par je trouve refuge. Autre point de vocabulaire. Avec le refuge, il y a toujours la bodhicitta. Et on dit, par ma pratique du don et des autres vertus, puis-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je suis désolé, on ne peut pas réaliser l'éveil seulement par des vertus. Parce qu'on peut pratiquer des vertus avec une très forte saisie égotique. Donc c'est une très mauvaise traduction. En tibétain, dans l'expression, il n'y a ni vertu ni paramita. Mais c'est sous-entendu paramita. Parce que Dagi Jinso, Jin, c'est le don. Et So, c'est etc. En tibétain, c'est comme ça la formule. Donc, le etc., ça veut dire par le don, etc. Mais c'est évident pour un tibétain que c'est le don et les cinq autres paramita. Et ces vertus-là, elles doivent être pratiquées comme des paramita et non pas comme de simples vertus, comme de simples actes vertueux. Les actes vertueux, ça permet, on va dire, d'accumuler ce qu'on appelle l'accumulation de mérite. On engrange du karma positif, ok. Mais la paramita, c'est une vertu que l'on pratique en l'associant à la sagesse, à la non-saisie. Et paramita, c'est un mot sanskrit qui veut dire aller au-delà. Donc cette vertu, si je la pratique en tant que paramita, elle me permet d'aller au-delà. Au-delà de quoi ? Au-delà du samsara. Au-delà de l'océan du samsara. Elle me permet d'atteindre l'autre rive. Mais la vertu, non. Elle vous permet peut-être, on va dire, de vous constituer un moyen de traverser de plus en plus costaud, tout ce que vous voulez, solide, d'accord. Mais la paramita, c'est vous traverser tout de suite, quoi. Donc pour les Tibétains, c'est clair, Dagi Jinso, c'est par ma pratique du don, etc., puis-je réaliser l'état de Bouddha pour aider tous les êtres. Mais nous, on a traduit ça, le etc., on a traduit ça par vertu. Eh bien, ça affadit, ça affaiblit ce qu'on est en train de dire, parce que si on ne rectifie pas ça, eh bien, dans les années prochaines, ça sera, il suffit de pratiquer des vertus pour réaliser l'éveil. Non, il faut pratiquer les paramitas. Donc c'est pour ça que nous, on rajoute, par la pratique du don et des autres paramitas, puissais-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Et ça, quand j'en ai parlé à Rinpoche, Rinpoche était tout à fait d'accord. C'est par les mots que l'on commence à dénaturer le sens de ce qui est dit dans une langue comme en tibétain. Et Rinpoche me disait qu'à ce sujet, l'erreur des occidentaux, de tous les occidentaux, c'est que quand on traduit, on fait du mot à mot, en général. Et après, on peut retravailler le sens. Mais en premier, on fait du mot à mot. Et tous les textes qu'on connaît, qui ont été traduits en français, ça a été traduit au début des années 70 dans l'urgence. Les lamas arrivaient, ils étaient invités à droite et à gauche, il fallait traduire. Les Tibétains n'étaient pas forcément des pratiquants, n'étaient pas forcément très très bons en tibétain, et ça, c'était déjà bien qu'ils puissent traduire cette langue. Les lamas tibétains, eux, ne connaissaient absolument pas nos langues européennes. Donc, ils ne pouvaient pas dire « Ah ben non, ce mot-là est trop faible pour traduire, etc. » Par contre, Rinpoche me dit « Mais depuis les années 70, on n'a jamais repris les traductions. » Effectivement, quand vous faites des pratiques comme Amitabha ou la pratique courte de Sangyemenla, mais franchement, ce n'est pas inspirant du tout, quoi, la traduction. Et Rinpoche rajoutait qu'au Tibet, ils n'ont jamais fait du mot à mot. Quand ils ont traduit du sanskrit ou du pali, je ne sais plus, au 7e siècle, quand le dharma est arrivé au Tibet, les traducteurs se sont fait tout de suite expliquer le sens, et à partir du sens, ils ont traduit le sens. Mais ils n'ont pas fait de mot à mot. Et c'est pour ça que la langue tibétaine, aujourd'hui, elle est encore extrêmement précise au niveau du dharma. Alors, on n'a pas à apprendre le tibétain. Nous, il fallait qu'on l'apprenne. Quand on allait en retraite, il fallait qu'on apprenne le tibétain. Mais aujourd'hui, on traduit de plus en plus les textes. Alors, Rinpoche disait, ouais, Mais le problème, c'est qu'il faudrait qu'il y ait un traducteur français, en tout cas occidental, qui soit très très avancé sur le chemin, voire peut-être un Rinpoche, mais occidental, et qu'en plus il soit poète. Parce qu'il pourrait traduire en versifiant et d'une façon très inspirante, comme c'est inspirant en langue tibétaine. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup, beaucoup de boulot à faire pour rendre plus juste les termes qu'on utilise dans les rituels ou lors des instructions. Alors, pour revenir au chemin de l'accumulation, il me semble que même s'il y a 35 ans qu'on est dans le Dharma, qu'on est pratiquant du Dharma, il faut maintenir, à mon avis, trois points. La conduite éthique. On ne peut pas avancer spirituellement si on n'est pas soucieux de vivre selon une éthique. Cette éthique, elle n'est absolument pas basée sur des notions de bien ou de mal. Elle est basée sur les notions de souffrance. Est-ce que cette attitude-là me fait souffrir et occasionne par là même, directement ou indirectement, de la souffrance pour l'autre? Ça, c'est la base de toute l'éthique bouddhiste. Et quelle est la motivation que l'on va mettre dans notre acte juste? Hein, si vous prenez la quatrième noble vérité, alors ça, là encore, il y a à dire, mais ça, bon, je leur dirai si j'ai le temps après, mais en tout cas, dans la dernière des quatre nobles vérités, l'octuple sentier, il y a l'acte juste, l'action juste. Et l'action juste, ça se base, mais en quoi, dans ma façon d'agir, dans mon comportement, dans mes multiples attitudes, ceci est conforme ou pas à l'éthique d'un pratiquant. Et la référence pour la conduite éthique, dans toutes les écoles bouddhistes, vous retrouvez ça. Trois actes négatifs par le corps qu'on va éviter et trois actes positifs que l'on va développer. Quatre actes négatifs par la parole que l'on va éviter, mais quatre actes positifs que l'on va développer. Et trois actes négatifs que l'on va éviter par la pensée et trois actes positifs que l'on va développer. Donc l'éthique, ça consiste à s'efforcer de s'abstenir de, mais pas uniquement. C'est aussi s'efforcer de développer la qualité contraire à, par exemple, l'acte de tuer, eh bien, on va s'efforcer de préserver la vie. Voilà. Alors, bon, ça, vous les avez vus, hein, je crois, avec Orgien. Vous avez vu ça, non?
Oui, je pense.
Oui, oui. Ouais. Donc, je ne vais pas redévelopper tout ça parce que c'est assez long. Mais le mois prochain, si ce n'est pas très clair, vous lui posez des questions là-dessus, quoi.
Je vais réviser.
Mais les anciens, là, les trois du corps, les trois actes négatifs du corps, à vous de les citer. Et ça doit fuser, ça.
La conduite sexuelle.
On va se mettre derrière un palier.
La conduite sexuelle.
Hein? L'inconduite sexuelle. Oui, ça, c'est la troisième du corps. Ne pas tuer, ne pas voler et ne pas avoir d'inconduite sexuelle. Voilà. Ça, c'est la base. Ça, c'est parce que par ces trois actes, par le corps, on peut faire souffrir beaucoup, beaucoup de personnes. Personne d'ailleurs n'a envie d'être tué, personne n'a envie d'être trompé et personne n'a envie d'être volé. Vous êtes bien d'accord? Mais ça, c'est la base. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, on voit des personnes, il y a un moustique qui vient par là, quoi. Ça fait 10 ans que la personne est pratiquante du Dharma. Je suis désolé, mais non, quoi. On ne peut pas réagir comme ça. On ne peut pas solutionner ce problème-là de cette façon-là, si on est vraiment pratiquant du Dharma, quoi. Il faut trouver une autre solution. Il y a des situations dans lesquelles on ne peut pas faire autrement, je suis bien d'accord. Quand vous avez un nid de frelons dans le grenier du centre Alus, 1,50 m de diamètre, là, vous êtes obligé d'appeler les pompiers, quoi. Voilà. Donc, il y a des fois, oui, c'est... on ne peut pas faire autrement. Mais il faut réfléchir à toutes les solutions que l'on peut utiliser et qui vont éviter de d'ôter la vie. Quoi. Bon, les quatre de la parole. Alors, il y en a trois du corps, trois de la, par la pensée, mais il y en a quatre quand même de la parole. Alors,
pas de médisance.
Pardon ? Ouais. D'abord, la calomnie. Ensuite, les propos malveillants. Ensuite,
mensonge.
Mentir, effectivement.
Le bavardage inconscient.
Et puis
bavardage futile.
Oui, ce qu'on appelle toutes les conversations futiles, que moi je résume au commencement était le verbe, à la seconde d'après était le blabla. Quoi. C'est souvent comme ça quand même.
Moi, c'est bien,
alors pourquoi. Oui, ça, il va le retenir. Alors, bon, c'est. Des fois, ça paraît être l'acte du corps, l'acte, la parole le plus bénin, mais on ne sait pas tout ce que l'on raconte, ça peut faire naître comme cliché, comme facteur perturbateur dans l'esprit de l'autre. Hein. Et ne me dites pas, bah oui, c'est son karma, quoi. Non, je suis peut-être à l'origine aussi de ce qui se passe dans son esprit. Et puis les trois de la pensée, la convoitise, les pensées malveillantes, et puis ce qu'on appelle les vues erronées. C'est-à-dire on pratique le dharma, mais on maintient qu'il y a une entité propre à chaque individu et à chaque phénomène. Donc à ce moment-là, on est dans l'extrême de ce qu'on appelle l'éternalisme. Mais associer la vacuité à rien, on est dans l'autre extrême, le nihilisme. Et ça, ce sont deux vues, deux points de vue qui sont considérés par le Dharma comme totalement erronés. Parce qu'il n'y a rien d'éternel qui existe de façon éternaliste, mais il n'y a rien qui soit non plus nihiliste. C'est-à-dire que toutes les manifestations, tout ce qui existe, eh bien oui, ça c'est le domaine relatif, et c'est tout, ça existe tout en dépendance de multiples causes et conditions. Donc ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, parce que moi je vous balance ce bol sur la tête en disant tout est vacuité, tout est vide d'existence, etc. Vous le ramassez sur la tête, il est peut-être vide d'existence propre, c'est sûr, mais dans le domaine relatif, vous aurez une bosse quand même sur la tête, quoi. Donc quand on dit que c'est vide d'existence propre, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Mais il n'existe pas par lui-même, parce que ce que vous appelez bol, eh bien, c'est un ensemble de 7 métaux déjà, et vous en retirez un, ça ne fait pas ce bol-là. Ça fera autre chose, ça fera peut-être un autre bol, mais ça ne fera pas ce bol-là. Et puis, il y a l'appellation bol qui définit cet objet-là. Je pourrais l'appeler chaise. Hein. C'est juste une question de convenance. Et puis, il y a quand même des personnes qui ont travaillé le métal, qui l'ont extrait, qui l'ont travaillé et qui l'ont façonné pour que ça arrive à donner ça. Vous retirez un, deux éléments qui composent ce bol, le bol n'a plus d'existence. Et en plus de ça, il y a la planète qui est présente dans ce bol. Parce que le métal, il se trouve... quand même, sur la planète. Et vous prenez chaque chose, vous pouvez décortiquer tous les composés qui constituent cet objet, cette chose-là, etc. Et il n'y a rien où vous pouvez dire, non, le bol, c'est ça. Parce que là, on peut vous démontrer que ce bol, c'est juste une appellation d'un ensemble de choses. Donc il est vide d'existence propre, ça c'est ce qu'on veut dire par vacuité, et ça c'est ce qu'on appelle la réalité ultime ou absolue, c'est-à-dire en gros, l'absolu c'est qu'il n'y a pas d'absolu, Et puis la réalité relative, bah oui, ce bol existe quand même. Le problème de notre esprit, c'est ce que voulait dire Rinpoche, le problème de notre esprit, c'est qu'il attribue à toute chose, il voit toute chose comme étant une chose unique. C'est un bol. Mais il y a des termes dans notre langue qui définissent un ensemble de choses. Et là, quand on prononce le mot foule, une foule, vous ne voyez pas une chose. Même si vous voyez une très grande foule, vous voyez tout un ensemble d'individus qui forment la foule. Parce que le mot lui-même définit un ensemble de choses. Et c'est un petit peu de cette façon-là qu'on devrait voir les phénomènes, voir les objets. Oui, je dis le bol, parce que cet ensemble forme quelque chose. Il y en a un, quoi. Mais c'est un ensemble de choses. Tout ça, ce sont des exercices, des observations pour comprendre ce que le dharma définit de façon aussi importante, aussi profonde par vacuité. Ça a été la grosse erreur de beaucoup d'Occidentaux à la fin du 19e siècle, voire de philosophes occidentaux qui ont défini le bouddhisme comme étant une voie nihiliste. Il n'est ni nihiliste ni éternaliste. C'est ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est-à-dire au-delà de ça. Et je rappelle, la voie du milieu, c'est au-delà de ça. C'est pas la voie de l'eau tiède. Donc vous avez pour l'éthique replongez-vous dans ces 10 actes. Ensuite, deuxième point, nous sommes dans le Mahayana, dans le grand véhicule. Donc là, vous avez été servi pendant toute l'année, je crois, parce que Orgen, ça a été le sujet, je crois, de l'enseignement de toute l'année dernière. Non?
C'était les paramitas, oui.
Les paramitas. Les paramitas, un pratiquant du grand véhicule que nous sommes. Donc, d'emblée, nous sommes ce qu'on appelle des bodhisattvas. Alors, peut-être apprenti bodhisattva, d'accord, mais l'outil du bodhisattva, c'est les paramitas. Donc, le don, les différentes formes de don. Alors, c'est très intéressant de voir le don. On a alors, je ne vais pas reprendre toutes les paramitas non plus, parce que vous avez tout reçu l'an dernier, mais dans le don, il y a des formes de don qui nous semblent assez évidentes. Le don de la protection, ça nous semble assez évident. Le don matériel, quand on le peut, ça nous semble assez évident aussi. Le don du dharma aussi, ça c'est la troisième forme de don. Mais le don du dharma, eh bien, ça fait partie de la paramita du don. Mais je dirais qu'il faut étendre un petit peu ce domaine du don, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes bien formatés et c'est compliqué de travailler sur ces formatages-là, sur ces tendances. Il y a des personnes qui disent « Non, je ne suis pas attaché. » Allez leur proposer aujourd'hui une chambre à Luce sans le wifi. Vous allez voir la réaction. Mais c'est... Et là, où est le don, par exemple? C'est pas d'acheter le wifi, mais je fais le don, eh bien, de ma conception, de ce que je prévoyais, il fallait que ma chambre soit comme ci, il fallait qu'il y ait le wifi, etc. Il n'y a pas le wifi. Ça crise en général. Ah ouais. Et puis je ne vous parle pas d'autres situations encore moins importantes que le Wi-Fi. Mais, et on réagit tous comme ça. C'est-à-dire qu'il faut observer son esprit, voir nos réactions, et se dire, mais attends, c'est ça ma souffrance samsarique ? Ça se borne à ça ? À cette crispation ou à cette frustration parce qu'il n'y a pas le wifi aujourd'hui dans ma chambre ? Oui, ça va modifier quelque chose. Ça va modifier ce que je pensais, eh bien, le séjour de 3 jours que je pouvais imaginer passer comme ça, ça va modifier ça. Et alors, je suis là pour travailler sur mon esprit. Alors, on ne retire pas le Wi-Fi volontairement pour faire travailler sur l'esprit. D'ailleurs, je prends cet exemple-là parce qu'on a toujours le Wi-Fi dans toutes les chambres. Mais c'est très, très souvent la première question que la personne pose quand elle s'inscrit ou quand elle demande s'il y a une chambre de libre. Mais est-ce qu'il y a le Wi-Fi ? Très surprenant, hein ? Mais en fait, on fonctionne tous comme ça. Le déformatage, vous savez, enfin, ou du moins la transformation de l'esprit, ça ne va pas se passer parce qu'il y a quelqu'un qui transforme notre esprit. Il n'y a personne qui peut transformer notre esprit. Et il faut identifier ce qu'il y a à transformer. Est-ce que je suis dépendant de ça, par exemple ? Mais si je suis dépendant, comment est-ce que je peux me dire « Ah oui, je pratique le dharma pour la libération ?» Mais la libération, ça commence à se libérer de ça. Ce n'est pas un jour, parce que j'aurais récité 10 millions de mantras, que tout à coup, paf, je serai libéré, il y aura un éclair d'éveil, je ne sais pas. Non, c'est une voie graduelle, ça ne peut se faire que progressivement, mais à condition de travailler sur mes propres conditionnements. Quoi. Si j'attends que les mantras ou que tel rituel transforme tout ça, moi j'appelle ça mais purement et simplement de la superstition. Quoi. C'est même pas de la pratique spirituelle, c'est de la superstition. Il n'y a pas possibilité de se libérer si l'on ne travaille pas sur son esprit. Alors ça implique de connaître le fonctionnement de notre esprit et d'être conscient, de prendre conscience que ce fonctionnement-là, mais il y a une dépendance. Ou alors, ça provoque de l'irritation dans mon esprit et par cette irritation, eh bien, je vais mitrailler quelqu'un, etc. C'est extrêmement important, de mon point de vue, c'est extrêmement important de faire des bilans de notre pratique. Et vous savez, on peut faire croire à tout le monde qu'on est un grand pratiquant et qu'il y a ça dans notre esprit, on est toujours tout sourire, etc. Ça, c'est quand on ne me voit pas trop. Mais les moines savent très bien que je ne suis pas toujours comme ça. Et moi, je sais qu'ils ne sont pas toujours comme ça. C'est-à-dire qu'il faut observer son esprit et se dire, ben, il faut que je travaille là-dessus. Quoi. Mais si je ne travaille pas sur quelque chose de précis dans mon comportement, dans mes tendances, dans mes empreintes, dans mes conditionnements, etc., mais je ne changerai jamais. Quoi. C'est à nous de faire ce travail. Le Bouddha n'a modifié l'esprit de personne. Il a donné des instructions et il a inspiré, de par sa présence, de par sa sagesse, il a inspiré des pratiquants à faire ce travail sur eux-mêmes. Mais ce sont tout être éveillé est devenu éveillé par lui-même. Par l'application des instructions qu'un autre éveillé a données. D'accord. Mais libre à nous d'appliquer ou pas, de suivre ou pas ces instructions. Et ça, c'est vraiment libre à nous. Et heureusement que c'est comme ça, parce que vous imaginez la manipulation que pourraient avoir certains êtres sur l'esprit d'autres êtres. Quand on dit « j'ai reçu la bénédiction » ou « j'ai reçu la grâce de la lignée », etc. Mais ça veut dire quoi ? Comment, en tant que pratiquant, vous pouvez vous dire « ah bah tiens, là oui, j'ai reçu les bénédictions de Rinpoche, par exemple, si j'ai s'il m'inspire, alors je me dis, ah bah oui, là j'ai reçu les bénédictions de Rinpoche. J'ai reçu la bénédiction ou la grâce de la lignée. Qu'est-ce qui peut, dans votre esprit, vous faire dire que vous avez reçu la bénédiction de tel maître? Parce qu'il a posé votre main sur la tête? S'il suffisait qu'un être éveillé pose sa main sur notre tête et puis que tout à coup il y a un éclair comme ça, hein? Mais moi je cours quoi. Ben oui, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est ça, recevoir la bénédiction de tel maître. Pas du tout. C'est simplement quand, par la présence du maître, par ses instructions, et surtout par le fait de mettre en pratique ses instructions, vous notez qu'il y a un changement dans votre esprit. Et là, quand cette instruction, vous voyez, ben oui, si je pratique comme ça, je vois que mon esprit se calme. Et qu'il y a moins de saisie dans mon esprit. Alors là, il y a quelque chose qui se développe par rapport à ces instructions. Et donc par rapport au maître qui vous a donné ces instructions. Mais c'est la confiance. Et la confiance, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas quelque chose qui s'établit dans notre esprit simplement par une dévotion aveugle, naïve, parce que ce lama est très connu, etc. Pas du tout. La confiance, elle ne peut se soucher que sur votre expérience. Et quand vous fréquentez, par exemple, un Rinpoche qui vous inspire, et que vous êtes auprès de lui une semaine, comme on fait, par exemple, au Summer Camp au Portugal, vous voyez que, alors je ne sais pas si ça marche pour tout le monde, mais pour beaucoup de personnes, elles constatent qu'au bout de 2 jours, elles ont beaucoup plus envie de pratiquer. Même s'il y a beaucoup de sessions, d'enseignements, de méditation, et qu'on peut être fatigué physiquement. Mais il y a un intérêt beaucoup plus grand pour le dharma et pour la pratique. Et en général, au bout d'une semaine, c'est du style, vous allez voir ce que vous allez voir, je rentre là, mais maintenant je vais vraiment pratiquer. C'est-à-dire que cette aspiration, et c'est à la pratique, par l'inspiration de la sangha, eh bien, ça fait partie de... C'est ce que j'appelle, moi, les bénédictions, recevoir les bénédictions ou la grâce, par exemple, de tel maître. Mais ce n'est pas un truc, comment dire, émotionnel ou un truc magique, quoi. Il n'y a pas de petite lumière qui se met à clignoter, il n'y a pas de... je ne sais pas, enfin... Tout reste normal, quoi. Mais intérieurement, eh bien, on se sent davantage avec envie de pratiquer, avec une motivation d'avancer. Voilà. Seulement, il y a les tendances. Il y a les voiles qui sont là. Et quand on rentre tout seul chez soi, le premier jour, ouais, ça va. Deuxième jour, on retrouve le boulot, on retrouve nos conditionnements de vie, etc. Au bout de même pas une semaine, au bout de 3 jours, ça paraît déjà un peu loin, et puis on n'a pas cette énergie pour maintenir ce que l'on a pu vivre pendant la semaine. D'où l'importance de fréquenter d'autres maîtres. Pourquoi ils viennent là, les Rinpoche? Pourquoi Ringo Rinpoche va venir dans 3 semaines? C'est pas parce qu'il aime le fromage... En France, hein, comme il dit souvent en rigolant, il dit « oui, oh, il y a du bon fromage en France, etc. » Non, c'est simplement pour nous accompagner dans notre pratique, pour les personnes qui se sentent une connexion ou qui se sentent inspirées par cet accompagnement que propose Rinpoche. Mais il ne force personne, c'est à nous de faire la démarche. Et chacun est responsable de sa pratique, et heureusement que c'est comme ça. Alors, ce que je voulais aussi, le troisième point, c'est la pratique de l'ojong. Alors ça, vous avez vu ça dans le chuling aussi. Il est bon, Rien, hein, parce que paramita, l'ojong, c'est bien. C'est pas moi qui lui dis de quoi enseigner, etc. Je fais une entière confiance à Rien, et je et je n'ai jamais assisté ni de visu, ni en écoutant en douce derrière la porte ou en écoutant en douce les enregistrements qui sont sur le site, jamais je me suis permis d'écouter un enseignement d'Orgen, parce que d'abord je lui fais entièrement confiance, et ensuite moi je trouverais que mon attitude serait très intrusive par rapport à Orgen. Je lui fais confiance, point barre, quoi. Voilà. Et parce que je sais qu'il pratique et que ce qu'il peut transmettre, bon, tu n'écoutes rien.
Ouais, je
mais,
parle.
Mais ce qu'il peut transmettre, c'est quelque chose qu'il vit. Et c'est quelque chose qu'il connaît par la pratique. Ce n'est pas simplement livresque ou une étude de texte. Voilà. Ça, c'est très important. Et l'autre jour, c'est quand c'est en allant à Épinal, où on se disait, je ne sais pas toi, mais moi, je ne peux pas enseigner quelque chose qui ne me réjouit pas, quoi. Mais alors ça, vraiment. Et tu me disais que c'est la même chose pour toi aussi. Voilà. Bon, alors, pourquoi je parlais de ça? Oui, c'est pour Lojong. Parce que l'entraînement de l'esprit, Lojong, ça veut dire entraînement de l'esprit. Alors, l'entraînement de l'esprit en 7 points, parce qu'il y a 7 points, mais cet entraînement de l'esprit, c'est primordial aussi, parce que ça nous donne les clés de comment aborder telle situation qui nous paraît hostile et comment l'intégrer à notre pratique. Et Lama Tenpa Gyamso, je parle souvent de lui, et parce que je reçois encore aujourd'hui des instructions de lui, mais Lama Tenpa Gyamso, c'est celui qui est entré en retraite, en ermite, lui, le même jour que nous, le 31 octobre 88. Mais sauf que nous, on est sortis en 92, mais lui, il n'est jamais sorti. Il y est encore. De l'Ardèche, pas de l'Ardèche, il était où? En Auvergne. De l'Auvergne, il a déménagé dans les Landes, et on le voit une fois tous les 7 ans ou tous les 5 ans, ça dépend. S'il a fini, comme il dit des fois, au bout de 5 ans, il dit « Non, je n'ai pas terminé ma pratique. Donc, on se verra dans 2 ans. » D'accord. Voilà. Et il est toujours en ermite, il vit toujours en ermite. Voilà. Eh bien, il nous disait à propos de ce texte, Lojong, l'entraînement de l'esprit, c'est un texte que vous devez avoir tout le temps avec vous, quoi. Parce qu'à longueur de journée, on peut devoir faire face à une situation. Eh bien, on cherche dans un des points de cette pratique des instructions pour intégrer cette situation à notre pratique et pour travailler sur notre esprit par cette situation, quoi. Donc les 10 actes non vertueux, l'éthique du bodhisattva, les paramitas, et puis l'entraînement de l'esprit par le texte de Lojong. Ça, c'est quelque chose, même si on a 50 ans de pratique, il ne faut jamais s'éloigner de ces 3 formes d'enseignement et voir comment on peut encore et encore les mettre en pratique de façon de plus en plus profonde. Le précédent Kalo Rinpoche nous disait « Jusqu'à l'éveil, ne relâchez rien. » Parce que tant que nous sommes sur le chemin de l'éveil, les tendances sont encore là. Et les tendances, elles sont là depuis des temps sans commencement, comme disent les textes. On est bien formaté. Mais on y arrivera, parce que les Bouddhas actuels, comme les Bouddhas du passé, ont tous été des individus, des hommes, des femmes ordinaires comme nous. Et on a tous cette nature de Bouddha. Tous les êtres ont cette nature de Bouddha. Aujourd'hui, si vous êtes là ce soir, vous avez les conditions pour la travailler et pour travailler dessus. C'est ce qu'on appelle la précieuse existence humaine. Mais il n'y a pas de différence de nature entre le Bouddha Shakyamuni, le Dalai Lama et vous et moi. Il n'y a pas de différence de nature. La seule différence, c'est qu'eux ont accompli tout le chemin et que nous sommes encore en chemin. Mais c'est la seule différence. En Occident, c'est un petit peu compliqué à admettre ça. Mais travaillez votre nature de Bouddha. Et dites-vous que vous pratiquez pour développer les qualités de cette nature de Bouddha, de sagesse, d'amour, de compassion, etc. Mais tout le monde a de l'amour, non? Il y a quelqu'un qui n'a jamais ressenti un sentiment d'amour pour quelqu'un? Et tout le monde a un sentiment de compassion pour un de vos proches qui souffre. Non? Évidemment. Donc elle est là, votre nature de Bouddha. Et voyez le dharma, voyez la méditation, eh bien, comme un moyen pour développer ça, mais jusqu'à son terme. Parce que la nature de Bouddha n'est pas seulement, ou la nature de notre esprit, n'est pas seulement conscience, n'est pas seulement sagesse, mais elle est aussi amour, qualité, amour, compassion. Donc on connaît bien ces qualités-là, on connaît bien moins tout l'aspect sagesse, mais c'est une seule et même chose. Hein? Ce n'est pas trois choses qui définissent notre nature de Bouddha ou la nature de notre esprit. C'est une seule et même chose selon trois aspects. Voilà. Alors pourquoi tout à l'heure, quand j'ai parlé des quatre nobles vérités, j'ai tiqué un peu parce que les quatre nobles vérités, ça aussi, c'est une traduction purement occidentale. Pourquoi on a appelé ça les quatre nobles vérités? Nobles vérités, parce que ce sont les quatre vérités des nobles. Littéralement, c'est ça. Dans la sangha est composée de trois éléments. La sangha de l'ensemble des laïcs qui pratiquent, la sangha des monastiques, des moines, la sangha monastique, et puis la sangha des aryas. Ça, c'est le troisième élément. De la sangha. La sangha des aryas, c'est-à-dire ce qu'on traduit par les nobles. Et les aryas, ce sont les êtres qui ont réalisé le chemin, qui ont parcouru tout le chemin et qui ont réalisé l'éveil. Donc ils sont devenus aryas, c'est-à-dire nobles, dans le sens où ben voilà, ils ont accompli tout le chemin. Et les quatre vérités, pour arriver à cet état, ils se sont appuyés sur les quatre vérités énoncées par le Bouddha. Et en Occident, on a appelé ça les quatre nobles vérités. Mais en fait, on devrait dire les quatre vérités des nobles. C'est beaucoup plus juste. Vous avez un enseignant hein, qui rappelle tout ça, c'est Philippe Cornu. Suivez les enseignements. Il faut s'inscrire, je crois, à sa chaîne, je ne sais plus comment c'est. Mais suivez ses enseignements. Il connaît à fond le tibétain, il connaît à fond le sanskrit, et en plus c'est un pratiquant. Donc quand il dit quelque chose, je crois que ça s'appuie sur sa compréhension, non seulement intellectuelle, mais aussi sur sa compréhension en tant que pratique. Et enfin, je voudrais dire quelque chose aussi sur le mot bouddhisme. Parce qu'il y en a qui font du bouddhisme. Non, il y en a qui me disent ça. « Ah, depuis que je fais du bouddhisme, etc. » Alors, peut-être qu'après, ils vont faire le Mexique, je ne sais pas. Mais le mot bouddhisme n'existe pas dans les langues asiatiques. Alors, Sam Ten nous rappelait que c'était en 1800. Oui. C'est au 19e siècle où il y a quand, vous savez, moi, je trouve que 1811, c'est tôt. Mais enfin bon, c'est en 1800 quelque chose que le mot bouddhisme a été inventé en Occident parce que Christ, christianisme, Bouddha, bouddhisme. Aucun tibétain ne se dit bouddhiste. Aucun. Ça n'existe pas dans leur langue. Par contre, dans leur langue, ce qui existe, c'est Nangpa. Ils se disent Nangpa. Nangpa, en tibétain, ça veut dire à l'intérieur. C'est-à-dire que pour eux, c'est très clair, ils n'attendent rien de l'extérieur, si ce n'est à être inspiré par des instructions, d'accord. Mais le travail doit se faire à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment l'enseignement du Bouddha. Donc, moi, j'utilise plus trop le terme bouddhisme, mais par contre, j'utilise le terme dharma. Parce que dharma, ça veut dire enseignement du Bouddha. Oui, je suis l'enseignement du Bouddha. Alors on peut m'appeler bouddhiste, mais Oui, je suis un pratiquant de l'enseignement du Bouddha. Et si on veut faire plus juste, on pourrait dire Bouddha Dharma. Le Dharma, vraiment, du Bouddha. L'enseignement du Bouddha. Mais le mot qu'on devrait vraiment garder, c'est Dharma, quoi. Alors, bien sûr qu'on va dire, bah oui, bouddhiste est devenu dharmiste, ou je ne sais pas quoi, mais peu importe. Mais c'est le sens plus juste, le plus juste. Le Bouddha, avant de mourir, a dit, vous n'avez qu'un seul maître, le Dharma, quoi.
Donc, oui. Le Bouddha est un homme ordinaire.
Le Bouddha était un homme ordinaire, mais quand il a réalisé l'éveil, alors on l'a appelé Bouddha. Parce que Bouddha veut dire éveillé. La racine de Bouddh, ça veut dire éveil, l'éveil. Voilà. Les Tibétains, eux, voilà un exemple où ils n'ont pas traduit mot à mot, ils ont traduit le sens. Qu'est-ce que c'est qu'un être éveillé ? C'est quelqu'un qui a tout purifié, sa confusion, et qui a épanoui toute sa nature de Bouddha. Eh bien, en tibétain, Bouddha se dit Sangye, Sang, purifier, Gye, épanouir. Voilà, c'est clair. En deux syllabes, en un mot, ils ont décrit toute la voie de ce qu'est un être éveillé. Bon, c'est une langue, hein. Il n'y avait pas de langue écrite hein, quand le Dharma est arrivé au Tibet. Il y avait un alphabet, mais ils ont créé les termes pour traduire de façon la plus juste possible le Dharma. En français, on est en train d'inventer des termes. Hein. Chercher incéité, incité, telléité, etc. Quand on parle de la nature de l'esprit, de la vacuité, etc., on est obligé d'inventer des termes parce que ça n'existe pas dans notre langue. Bon, tout ça, c'est le... On verra, hein, les générations futures, comment elles feront par rapport à tout ça, quoi. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des réflexions, d'autres questions? Oui.
Une petite réflexion, parce que tout à l'heure, on dit que dans la nature de l'esprit, quoi qu'il vienne à notre esprit, ça fait partie de notre nature de l'esprit. Si on a une pensée d'avidité ou de colère, ça fait partie de la nature de l'esprit. Et après, on dit on a la même nature de l'esprit que le Dalai Lama ou que le Bouddha et tout.
Bien sûr.
La nuance quand même entre les deux, c'est que eux, ils ont la nature de l'esprit, mais qui est purifiée, parce qu'ils ne s'élèvent plus normalement de colère ou d'avidité.
Tu crois ça
ou de... ben, je ne sais pas, c'est la question.
Moi, j'ai longtemps cru ça aussi.
Ouais.
Quand, une fois, j'étais à Dharamsala, et je prenais un thé avec la sœur du Dalai Lama, le Sispema Gyalpo. Et je lui dis, est-ce que je peux avoir une audience, parce que c'était des audiences par tout petit groupe, avec sa sainteté. Elle m'a dit non, parce que notre jeune frère vient de mourir, et sa sainteté est très affectée. Je me suis dit, comment un être éveillé peut être affecté par la mort de son frère? Mais j'étais tout nouveau, c'était en 80, je ne sais plus, c'était vraiment tout nouveau. Mais bien sûr qu'il peut être affecté. Mais bien sûr. Bien sûr qu'il peut avoir de la tristesse dans son esprit. Seulement, ce qui a disparu, c'est la notion de quelqu'un qui est triste. Mais il y a de la souffrance. Quand, je ne sais pas moi, il se brûle, mais il ressent quelque chose.
Oui, mais les voiles, comme la colère, l'avidité.
Mais attends, ce qui a disparu, par contre, ce n'est pas la sensation. Mais c'est la conception de quelqu'un qui souffre. C'est un souffrant.
D'accord.
C'est comme, il continue de penser, mais il n'y a plus de penseur, etc. C'est-à-dire que, même s'il y a de la tristesse, sa tristesse n'est pas vécue comme nous vivons, cette tristesse. Parce que tant que nous la solidifions et tant que nous constituons une entité qui est triste, alors cette tristesse... elle est bien solidifiée. C'est pour ça que la première expérience de l'Aktong, c'est vraiment indispensable, parce que quand vous savez que les phénomènes ne se mettent pas en place par eux-mêmes et qu'il n'y a personne pour, en tant qu'entité pour expérimenter ces phénomènes, quand vous avez de la tristesse, vous vous rappelez ça, mais immédiatement, la tristesse, tout s'ouvre et la tristesse s'en va. Et pour tous les phénomènes, c'est comme ça. Mais le Dalai Lama peut avoir de la tristesse, il peut avoir de l'irritation, mais instantanément, ça se libère, parce qu'il reconnaît la nature de ce qui s'élève dans son esprit, qu'il n'y a que la tristesse n'est pas, ou autre phénomène n'est pas quelque chose, n'est pas une entité, et qu'il n'y a personne en tant qu'entité pour être triste. Mais quand on réalise ça, il y a quand même la tristesse. Je vais même vous faire rire. Au tout début, quand j'ai découvert la voie, je ne comprenais pas pourquoi un être réalisé comme le Dalai Lama devait porter des lunettes. Ça voulait dire qu'il avait une déficience visuelle. Mais pour moi, un être éveillé, c'était quelqu'un mais totalement parfait physiquement et tout. Quoi. Ben non. Le corps a ses lois et puis voilà. Mais comment lui vit ça? Ça, il le vit différemment que nous le vivons. Le 16e Karmapa, quand il est mort à Chicago en 1981, il manifestait différentes... Il était en phase terminale de cancer, il était métastasé de partout. Ok. Il n'y avait aucune manifestation de souffrance chez lui. Et pourtant, il souffrait autant qu'un autre individu pouvait souffrir. La sensation était là. L'agrégat de la sensation était là. Quoi. Il n'était pas anesthésié. Mais son esprit était libre par rapport à ça. On a beaucoup de mal à comprendre comment, alors qu'on a une expérience qui, jusque encore maintenant, est douloureuse et qu'on a vraiment cette impression de souffrir, comment quelqu'un qui est réalisé a cette expérience de souffrance et en même temps est libéré de cette douleur. Mais ça, il faut faire l'expérience dans l'Aktong. Chiné est nécessaire pour faire l'expérience de l'Aktong, mais n'est pas suffisant pour se libérer.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une poursuite du karma, mais qu'il n'a plus d'influence sur l'esprit, et que l'esprit est donc libéré de l'influence du karma, alors, mais le karma est encore, se produit encore?
Alors ça, c'est la vision, c'est le point de vue du grand véhicule. Donc nous avons ce point de vue-là. Le Theravada, pour eux, tant qu'il y a une manifestation karmique, le corps par exemple est une manifestation karmique, tant qu'il y a de la manifestation, il ne peut pas y avoir d'éveil. Pour en Thaïlande par exemple, ils peuvent concevoir que le maître est extrêmement avancé, mais le nirvana pour eux, l'éveil, ça sera le para-nirvana, c'est-à-dire quand les agrégats cesseront de fonctionner. Et ça, c'est une vue qui, dans le Mahayana, dans le grand véhicule, eh bien, est réfutée, dit non, il y a encore, oui, il y a des reliquats karmiques qui font que eh bien, le corps continue d'exister jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'énergie pour qu'il existe encore.
En fait, le karma,
mais l'esprit peut se libérer de ça.
Le karma doit s'épuiser, mais il n'y a plus de production de karma.
Oui, exactement. Parce qu'il n'y a plus... Le karma n'existe qu'à partir de l'ignorance fondamentale. Donc, si vous arrivez par la pratique à déraciner cette ignorance fondamentale, il n'y a plus de karma. Alors après, il y a des effets, comment dire, il y a les vieux reliquats karmiques, les agrégats continuent d'exister, mais il n'y a plus d'ignorance fondamentale, donc il n'y a plus de cette saisie égotique qui solidifie tout. Ça, c'est pour ça que l'éveil dans le Mahayana est vu comme étant quelque chose de possible alors qu'on n'est pas en train de mourir. Voilà.
Et quelque chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut être à la fois sous l'influence du karma et des émotions perturbatrices et d'un autre côté avoir un libre arbitre. C'est la question que je me pose depuis longtemps déjà en boucle.
Alors ça, c'est souvent la question qu'on nous pose par rapport au libre arbitre. On a d'une façon un libre arbitre de choisir, hein, mais tous nos choix sont quand même conditionnés. Mais ces conditionnements ne sont pas suffisamment puissants pour qu'on n'ait pas le choix. Mais forcément, tous les choix que l'on fait, il y a des conditionnements qui sont là, quoi. Alors, Rinpoche, on lui a demandé d'enseigner sur justement la Pratyekamsa Paramita. Je ne sais pas si c'est ça qu'il enseignera, mais ce sutra du cœur, quoi, qui parle de vraiment la vacuité. Vous savez, c'est ce sutra qui se termine par le vide est forme, la forme est vide.
Ouais.
Koan. Bon, je ne sais pas si c'est ça qu'il enseignera, on verra, mais...
Ça serait bien, ça, ça recollerait avec...
Ça serait bien.
Nagarjuna, du coup.
Ouais. Et pourquoi il faut que ça colle avec Nagarjuna?
Parce qu'il vous faites, un atelier sur l'île de sagesse, et puis j'ai l'impression qu'il y a pas mal de... Nagarjuna est remis en Occident dans les programmes scolaires, donc c'est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger réellement en Occident. Et c'est peut-être le bon point qu'on soit un peu averti si toutefois on nous pose des questions. Moi, j'ai un pote qui est prof de philo, et quand je lui ai fait découvrir Nagarjuna, parce que ça me prenait la tête, hein, je voulais voir ce que lui... Je lui ai dit, tiens, tu prends ça. Et il était vraiment très satisfait de ces textes, à tel point qu'il les enseigne depuis des années à des élèves de terminale.
Oui, 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 je sais que c'est revenu dans les programmes.
Et puis pourquoi? Tout simplement parce que je suis en plein dedans aussi, donc c'est très égotique. Après toutes ces explications. Non, mais...
Moi, le meilleur texte qui soit aujourd'hui comme commentaire du traité de la voie du milieu de Nagarjuna, c'est Soleil de sagesse, quoi. Parce que le commentaire, il y a 27 chapitres, le commentaire de ce texte, il est fait par Kenpo Tsultri Gyamso Rinpoche. Et ce Rinpoche, alors il est très âgé aujourd'hui, mais il a vécu 30 ans dans une grotte au Tibet. Et je pense qu'il ne s'est pas contenté de dormir. Il a quand même vraiment réalisé quelque chose. Et en plus, c'est un Kenpo. C'est-à-dire qu'il a fait 15 ans d'études, en gros, il a fait tout le cursus que proposent les monastères pour être geishé chez les Gelugpa ou Sakyapa, ou Kenpo chez les Nyingmapa et les Kagyupa. Donc, quand il commente ce texte-là, on sent qu'il y a à la fois sa compréhension intellectuelle de ce que dit Nagarjuna sur la vacuité, et en même temps, eh bien, sa réalisation par rapport à ça. Et ça, c'est très riche comme commentaire. Ton philosophe, c'est très bien, mais il faudrait qu'il pratique un peu parce que...
Vous êtes déjà pas mal.
Oui, mais il n'y a que l'aspect philosophique, intellectuel. Et c'est très bien, mais il faut que ce soit utile aussi. Bon, c'est quelqu'un qui est prof de philo, c'est très bien. Mais un commentaire d'un tel texte par une personne qui est à la fois philosophe et à la fois un grand pratiquant, pour moi, ça, c'est le summum, quoi. Je dis souvent aujourd'hui, si je devais partir sur une île dès demain, mais c'est ce texte-là que j'emporte, quoi. Parce qu'il y a vraiment la clé. Mais je rappelle que la voie est graduelle. attaquer ce texte sans pratiquer un minimum, quand je dis un minimum, mais le calme mental, samatha, shiné, on ne comprend rien. Quoi. Ou alors ce qu'on comprend, mais ça reste seulement au niveau du mental. Quoi.
Oui, mais ça peut être une porte pour une personne, parce que lui, il n'est pas...
Mais serait bien, mais très bien, c'est bien. Mais pour nous pratiquants, ça ne suffit pas.
Ah oui, bien sûr.
Elle est bien, cette salle, non?
Oui, c'est surtout
les gens... Je crois que je vais revenir à Belfort.
Bah, ils sont bien, les gens de Belfort aussi, c'est surtout ça.
Comment?
C'est les gens de Belfort qui sont bien, ils dégagent un truc.
Mais quand je dis la salle, c'est pas forcément...
Ah ouais, d'accord, bah, je viens de comprendre, alors.
Aïe, aïe, aïe. On va se voir que les gens de Vesoul sont venus nous aider.
Pas d'autres questions? Oui.
Sur votre déserte, avec ou sans le wifi?
J'ai rien compris.
Sur l'île déserte.
Sur l'île déserte, avec ou sans le wifi?
Ah non, alors vraiment sans. Parce que là, j'en ai une indigestion, des 50 mails par jour. Oh là là. Non, non. Mais je me demande aujourd'hui, les personnes qui vont en retraite de longue durée.
Oh
bah. Eh ben, hein?
Bah, elles ne l'ont pas.
C'est sûr.
Qui te dit qu'ils ne l'ont pas?
Oh bah, voilà, tranquille. Hein. On fait, hein. S'ils peuvent avoir accès à YouTube et tout ça, c'est tout.
Attendez, vous savez, à Karmaline, c'est pas une pratique... qu'on a chez nous, dans notre lignée, mais l'Enigmapa, je crois qu'ils ont ça dans le Dzogchen. C'est-à-dire le caisson où il n'y a absolument aucun son, aucun bruit. Eh bien, ils ont été obligés. Comment?
Ah, c'est bon. Non, j'ai rien dit.
Mais... Pardon, pardon. Mais ils ont été obligés de mettre ça, je ne sais pas s'ils le font encore, mais à une époque, ils ont été obligés de mettre dans la petite pièce avant d'entrer dans le caisson, comme quoi les portables n'étaient pas autorisés. Quoi. Parce qu'il y en a un qui a fait ses 3 jours ou 7 jours, je ne sais pas comment c'est possible, mais avec son portable. Quoi. Alors il n'y a pas de son, il n'y a pas de lumière. Hein. Vous êtes dans le noir le plus total. Quoi. Mais c'est une pratique plutôt Dzogchen, ça. Nous, on ne connaît pas ça chez les Kagyupa. En fait, on a choisi une bonne... ouais. Moi, je trouve une bonne lignée. Ouais. Parce que tous ces trucs qui paraissent un peu excessifs, nous, on dit, non, c'est pas pour nous. Voilà. Rien d'autre? En tout cas, je suis très content de vous retrouver, de connaître de nouvelles personnes. Mais on s'était déjà vu une fois, non? Non? Pas à Belfort? On n'est jamais venu à Luce.
Non. Je voulais, mais ça ne s'est pas fait encore.
D'accord. Ça, c'est marrant.
Tout à l'heure.
Il y a des personnes comme ça. Comment?
Non, non, j'ai dit encore une bêtise.
Oui. Ça, c'est un futur.
Oui, c'est exactement ça.
Ok, ben on va faire la dédicace. Personne n'a de nouvelles de Nadia? Parce qu'elle venait avant, était même assez régulière. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et sans l'exclusion d'un seul établir en cet état à tous les êtres. Merci à tous. Merci. 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 Merci.